C'est le commentaire hebdomadaire de notre ami Phil Desgagnes. Salut Phil.
Bonjour Danny.
Phil, hier, j'ai eu l'honneur encore une fois. Je suis toujours flatté d'avoir Serge Chavard en entrevue parce que j'étais le seul le média à l'appeler parce que demain, ça va faire 25 ans qu'il a été congédié, lui et Jacques Demers. Ça passe vite pareil. Hein?
Oh oui, c'est sûr. C'est très rapide le temps.
Et Phil, pas si d'accord avec moi, mais les Canadiens n'ont jamais eu de DG qui a une prestance. Qui avait une présence aussi grande que Savard après Savard.
Ah, c'est sûr que Serge Chamard, à cause de la carrière qu'il a connue dans la Ligue nationale de hockey, le nom du sénateur lui allait très bien parce que c'était un homme cultivé, qui était au courant, qui était impliqué, qui connaissait un peu le milieu, qui osait s'exprimer clairement également sur la politique, le monde des affaires et tout. C'est un homme d'affaires averti en plus. Donc, effectivement, quand il est devenu DG du Canadien de Montréal, c'était un gars qui avait une notoriété tout à fait exceptionnelle. Et pour personne qui pose la question, c'est qui? Exemple, le directeur actuel qui est Marc Bergevin, même s'il a connu une carrière de 20 ans dans la Ligue nationale de hockey, n'avait pas la même notoriété, la même prestance. Et deuxièmement, c'est que tu sais comme moi qu'être DG dans la Ligue nationale de hockey, c'est un boys club. Donc, il faut que tu aies beaucoup de notoriété, il faut que tu aies beaucoup de contacts. Savard avait tout ça. Même s'il avait terminé sa carrière à Winnipeg, il reste que. Il a joué pour le Canadien de Montréal. Il a été considéré parmi l'élite de la Ligue nationale comme joueur, ce que Bergevin n'a pas été. Mais ça demeure que, honnêtement, dans le cas de Savard, sa prestance a fait que tout le monde respectait Savard. Et quand Savard mettait une opinion, les gens l'écoutaient, puis
Même
je pense
encore
qu'il n'était pas
aujourd'hui.
gêné de.
Même
Même
encore.
encore aujourd'hui,
Oh,
effectivement.
écoute,
Oui,
Phil,
t'as raison.
Bob Gainey aurait probablement eu sa prestance, là. Sauf que Bob, quand il a perdu sa fille, la chaîne a débarqué là.
Ah non, écoute, Bob Gainey avait beaucoup de prestance, Bob Gainey avait beaucoup de contacts, il était énormément respecté à travers la Ligue nationale de hockey à cause de son statut de joueur et également la façon de travailler. C'était un gars calme, posé, qui ne se laissait pas emporter. Donc, Bob Gainey a eu beaucoup de prestance, beaucoup de considération également. C'est sûr que le hockey d'aujourd'hui et le hockey d'il y a 15-20 ans, ça a énormément changé. Pour une raison, pour les DG, c'est le plafond salarial. Moi, je pense que le plafond salarial a changé la façon de travailler des directeurs-gérants. Également, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus complexe. Tu sais, avec les agents, les contrats, les impôts. Tu sais, il y a toutes sortes de facteurs. Puis le plafond salarial vient, je pense, changer l'allure des négociations, l'allure de comment travailler. Donc, tu sais, avant, Serge Savard, il ne se préoccupait pas l'aspect monétaire du club, parce que c'était un club riche, puis on signait les joueurs, puis il y avait le signe d'appartenance. Aujourd'hui, c'est plus ça, là. Les joueurs sont en business. Ils travaillent avec des agents, ils travaillent avec des conseillers financiers. Le plafond salarial est là. Donc, c'est une totale différence importante de diriger dans le temps de Serge Savard, puis de diriger dans le temps de Marc Bergevin aujourd'hui.
Mais Phil, t'es d'accord avec moi, si Lou Lamoriello, un gars intelligent, c'est un gars intelligent. Et Lou Lamoriello, qui est à l'époque de Savard, était nommé DG de l'année, convaincu que Savard était capable de bien
Ah
s'acclimater.
oui, moi je ne doute pas que Serge Savard se serait adapté. C'est un homme d'affaires. Il se serait adapté avec les circonstances. Et deuxièmement, ils sont entourés aujourd'hui de conseillers techniques là, au niveau monétaire. Marc Bergevin ne prend pas les décisions tout seul de dire aujourd'hui, j'ai de la place pour ça. Il y a des conseillers autour de lui. Serge Savard aurait utilisé la même chose. Et deuxièmement, c'est que c'est un gars qui a vu neiger, puis il a réussi une affaire, puis il a réussi à bien être droit. Donc moi, je ne suis pas inquiet de ce côté-là. Mais diriger aujourd'hui, c'est différent. Et l'attitude des joueurs est différente. Avant, appartenir à un club, appartenir à une destinée, à un club qui était comme le Canadien de Montréal ou à Toronto ou à un autre endroit comme New York, c'est important. Aujourd'hui, c'est business. Comment ça me rapporte? Comment je mets dans mes poches? Comment je sauve d'impôts? Ça marche comme ça aujourd'hui. L'appartenance au club, là, de moins en moins, il faut le dire.
Mais Phil, j'en viens sur le 25 ans. Est-ce que l'erreur de Ronald Coré à l'époque était a pas été. Moi, qui congédie Serge Chavard à quelque part, je sais pas qu'on. C'est vrai qu'il avait peut-être fait son temps, mais le remplacer par Réjean Houle, c'était ça la grosse erreur. Si t'aurais mis un Pierre Lacroix, un gars comme Pierre Lacroix, c'est pas lui parce que Pierre Lacroix il était avec les Nordiques à l'époque, mais un gars de la prestance de Pierre Lacroix, convaincu que ça aurait pas été la même affaire. T'sais,
faut dire que Ronald Coré avait ce qu'on appelle le sens de la famille, de l'équipe, de l'entourage. Et pour lui, Réjean-Houl, c'était ce genre d'individu-là. Il a pensé que Houl pourrait faire le travail. Écoutez, il l'a placé là. Moi, je pense que ses intentions étaient très bonnes. Peut-être qu'il a pensé à Pierre Lacroix, mais pour lui, Houl était l'homme de la situation. Ou, une chose également, c'est Coré qui aimait ça, se mêler des affaires, se mêler du hockey, ces choses-là. Donc, avec Houl, il savait qu'il était plus impliqué qu'il l'aurait été si ça avait été Pierre Lacroix, comme il n'était pas trop avec Serge Savard. Savard, c'est lui qui venait, c'est lui qui dirigeait. Mais là, tu sais, il y a toujours dans l'entreprise, des fois, des choses qu'on ne connaît pas, puis quand après on apprend, on a dit, ouais, le président voulait peut-être s'en mêler. T'sais, moi, je suis président d'un organisme actuellement, j'ai une directrice générale. Si je veux me mêler de la direction générale, ce n'est pas la nouvelle façon aujourd'hui de faire ça. Peut-être qu'il y a 10 ou 15 ans, c'était accepté, mais maintenant, ce n'est plus la façon que ça fonctionne dans l'entreprise.
Comment t'as trouvé Bergevin, là? Tout le monde est excité par Bergevin. Oui, il a fait une bonne job. Faut quand même être honnête avec lui. Faut quand même être très honnête. Sauf que quelque part, moi je trouve la plus grosse acquisition, c'est Jake Allen. Même si Anderson, c'est pas Rick Tocchet qui débarque à Montréal, là, quand même. Faut quand même pas charrier, là. Toffoli, c'est pas un mauvais joueur, c'est une belle acquisition aussi, mais reste qu'on était 24, quoi, 24e dans la ligue. T'sais, on a fait les séries, mais parce que par défaut, t'sais, faut.
Moi, je pense que ce qui est où le Marc Bergevin a bien réussi, moi, je pense qu'il a grossi son club. Le Canadien avait un club petit. Et quand on arrivait à les fins de saison, les joueurs étaient épuisés. Physiquement, on n'était pas capable de jouer contre les grosses équipes. Et en série éliminatoire, on n'était pas de calibre pour jouer avec ces équipes-là parce que les joueurs physiques, les joueurs de gros gabarit prennent de l'espace beaucoup plus en série de fin de saison. Moi, je pense que ça, c'était la priorité de Marc Bergevin. Et quand il a amené certains joueurs qui a remplacé d'autres joueurs, et deux, il y a un autre facteur. C'est que Bergevin a repêché il y a quelques années Kotkaniemi, il y a également Suzuki. Il faut qu'il fallait se laisser place à ces joueurs-là. Il faut qu'il leur donne de la place. Et je pense qu'en série qu'on a vu, même si le Canadien les a fait par défaut, on s'est rendu compte que ces deux gars-là n'étaient pas loin d'être les centres numéro 1 et 2 dans un club de la Ligue nationale. À partir de ce moment-là, je pense que Bergevin a posé le geste en disant, maintenant, pour que je grossisse mon club, il faut que je mette de la protection pour aider ces jeunes joueurs-là à progresser. Et l'autre facette, c'est Jake Allen, tu as raison. Écoute, c'est pas compliqué. L'année passée, le deuxième gardien n'a pas gagné un match de la saison. On sait qu'aujourd'hui, avec le nombre de parties qu'on joue, les gardiens de but réguliers ne peuvent pas être devant le filet pendant 80 matchs ou 75 matchs. Donc, il faut qu'il soit 50 matchs, puis il y a une trentaine de matchs qui vont au deuxième gardien. Mais le deuxième gardien, il faut qu'il en gagne 10 ou 15. Si l'année passée, le deuxième gardien du Canadien aurait gagné 12 victoires, le Canadien aurait été facilement dans les séries, il aurait été dans la course dans leur division. Mais
pour ça
on
que je
n'avait
disais.
pas ce genre de gardien de but-là. On ne l'avait pas. Donc, moi, je pense que Bergevin a bien travaillé. Le cas le plus difficile à régler, à mon avis, à moi, c'était Gallagher. Il fallait le régler parce que c'était important, parce que c'est le leader de l'équipe. C'est un joueur qui marque 30 buts, puis c'est un gars qui est enthousiasmé. Et dans le cas de Gallagher, ce qui va lui donner encore plus de chance, on vient de lui donner des hommes autour de lui qui vont faire que c'est pas lui qui va être devant le filet pour essayer de rassembler puis se faire rebâtir. Il y a des gros Anderson, puis Toffoli, puis tous ces gars-là qui vont être capables de faire ce travail-là. Donc, moi, personnellement, je pense que oui. Deux, en défense, le Canadien a changé. Tu sais, on parle pas du Russe qui s'en vient. Puis là, je pense que c'est très clair. Et deux, il y a une chose qu'on s'est rendu compte en série de fin de saison. Quand Carey Price est bien reposé, il est vraiment un top ligue nationale.
C'est là que
Quand il
Jake
garde
arrive.
70 ou 72 matchs, il vient fatigué, la pression devient trop forte, puis je pense que c'est tout à fait normal. Dans les circonstances, on a vu que quand il est arrivé reposé pour ce qu'on a vécu dans les derniers mois, Price était dominant à tous les niveaux, là. Je pense qu'on l'a très, très bien vu à ce moment-là.
Phil, il me reste trois petits points que je veux te parler. Je veux te parler de Charludon, c'est maintenant confirmé qu'il s'en va en Europe. Écoute, dans le cas de Charludon.
Moi, je pense qu'il va demeurer là. Je
Ouais.
pense qu'il va demeurer là.
Il peut faire une belle carrière, hein? Il y a des joueurs qui ont fait une belle
Bah,
carrière, puis il peut
en Europe, ils sont
dominer,
bien
tu sais.
payés, les joueurs sont bien
Bon.
payés. Là-bas, là, les gars gagnent des bons salaires, pas d'impôts, chars fournis, appartements fournis. Donc, je pense que quand ils s'en vont là, les gens viennent de là avec plusieurs centaines de milliers de dollars dans leurs poches. Puis donc, n'oubliez pas, quand même, il a gagné 4 à 5 millions depuis qu'il est joueur en haut, en bas, en haut, en bas. Il avait un contrat au One Track Ligue nationale, il gagnait 800 000 par année. Donc, moi, je pense pas que Hudon est mal pris. Il leur fait de la belle argent. malheureusement, tu sais, il y a eu des chances de vraiment faire le club. Il a pas démontré avec le Canadien. Est-ce que l'an prochain, avec l'expansion, est-ce que le club de l'expansion pourrait le repêcher puis dire on va lui donner la chance? Peut-être, parce que dans la Ligue américaine, il marquait des buts. Tu sais, ce qu'il faisait pas dans la Ligue nationale. Mais ça dépend toujours aussi de la glace qu'on te donne et des occasions qu'on te donne. Avec le Canadien, on ne lui donnait pas ça.
Richard Ludon, il y en a plein, par exemple. C'est ça qui...
Il y en a plein, effectivement. Ouais. Il y en a beaucoup dans les...
Autre point, je veux te parler aussi de la Légion majeure du Québec. Ça va-tu reprendre, oui ou non? J'espère que oui.
Moi, je pense que oui, mais pas avant le mois. À mon avis, personnellement, début décembre, début janvier.
Oh!
Je pense que c'est très clair qu'on va retarder. Tu sais, plus on écoute les politiciens, les gens de la santé... c'est que le 28 jours, il va être prolongé, sûrement.
Ben oui.
Et deuxièmement, c'est que là, les équipes, là, ce qu'ils avaient besoin, puis je pense que ce qu'ils voulaient chaud, c'est le fameux monétaire qu'est-ce que le gouvernement donne. Là, ils ont en main ce qu'il faut pour ça. Je pense que les clubs ne sont pas prêts à recommencer demain matin. Ce qu'ils vont faire, c'est que les dépenses vont couper, d'abord. Deuxièmement, on risque de ne pas jouer 60 parties, on risque peut-être d'en jouer 50. On risque d'être capable de plus équilibrer le budget. Et deux, il faut également que les clubs continuent leur mission, ce serait très clair, que leur mission, c'est de dire, on a des joueurs étudiants, il faut qu'ils poursuivent leurs études, il faut continuer de s'entraîner. C'est ce qu'ils vont faire. C'est plat pour les joueurs. Il faudrait que les coachs soient créatifs pour garder toute la passion de ces jeunes joueurs-là. Et moi, personnellement, je pense pas qu'on voit du hockey junior avant le début décembre, même, je dirais peut-être même au début janvier.
OK. Phil, merci beaucoup. On s'en parle bientôt. Notre ami Phil.
Merci.